Dans les temps d'oraison, on a souvent l'impression d'être un peu trop passif. Thérèse nous dit qu'il ne faut pas être paresseux, mais on peut avoir l'impression d'une trop grande passivité à certains moments. Mais c'est une impression. En fait, l'oraison est source d'un profond dynamisme de la vie spirituelle, et c'est ce point-là que va développer le père Pierre Coulanges. Merci.
Merci, je suis très heureux que cette semaine d'études sur Thérèse d'Avila ait pu voir le jour. Je remercie beaucoup les organisateurs de cette semaine d'études pour cette initiative, je crois, très heureuse. Et en effet, mon propos de ce matin serait d'insister sur le fait que dans la vie spirituelle, il importe de garder intact cet élan initial au moyen d'une détermination énergique dont nous parle Thérèse d'Avila. Elle a été bien consciente de l'importance de cet élan. Et elle insiste constamment sur le regard, sur l'attitude active durant le temps d'oraison. « Je ne vous demande qu'une chose, c'est de le regarder. Il n'attend de vous qu'un regard. » La conviction qui m'a conduit à scruter cette question est qu'à certaines étapes de la vie spirituelle, Dieu attend de nous un élan, un mouvement. Et il y a, en effet, on voit ça spécialement dans la vie consacrée, c'est que à certaines étapes de la vie consacrée, on éprouve le besoin de se donner de nouveau. C'est le cas, par exemple, si on regarde une autre Thérèse de l'Enfant Jésus, elle s'est consacrée dans la vie religieuse, et à une certaine étape de sa vie spirituelle, elle a voulu faire un acte d'offrande qui n'était pas requis par la règle, mais elle a demandé la permission à ses supérieurs de s'offrir de nouveau à l'amour miséricordieux, et ses responsables lui ont donné leur accord. Eh bien, je voudrais parler justement de cette détermination, et je voudrais vous expliquer quelle est la thèse que je voudrais développer ce matin, qui tient en deux aspects. On réduit souvent cette détermination de Thérèse à une disposition de son caractère, comme si cette détermination de Thérèse était une espèce d'accessoire psychologique que l'on regarde comme une curiosité qui fait sourire, comme une disposition naturelle, indépendante de sa doctrine. L'objet de cette présentation, c'est de montrer que cet élan thérésien fait corps avec sa doctrine sur la vie spirituelle. Elle place ce mouvement, cette détermination à part égale avec le don de soi et l'obéissance pour parvenir à la sainteté. Il y a un bon dictionnaire sur Sainte Thérèse d'Avila, dirigé par Thomas Alvarez, qui consacre un article entier à cette détermination thérésienne. Une détermination, donc, que je voudrais scruter, non pas du point de vue de sa vie active, parce qu'on pourrait le comprendre comme une détermination à fonder, par exemple, à réformer l'ordre, mais je voudrais, resserrer mon sujet sur la détermination par rapport à l'oraison, à la vie spirituelle. C'est-à-dire la détermination, l'élan dans la prière. L'élan mystique, on pourrait dire. Par exemple, quand elle commente le Pater, elle insiste sur l'attention au Christ. Essayez de lui tenir compagnie, dit-elle. Et quelle meilleure compagnie que celle du Maître. Et elle insiste sur le regard. Faisons route ensemble, Seigneur. Le deuxième aspect de la thèse que je voudrais développer, c'est que on interprète parfois la détermination chez Thérèse comme un conseil qu'elle donnerait par rapport au risque de découragement. Parce qu'elle a effectivement fait l'expérience que beaucoup de personnes commencent à pratiquer l'oraison, la prière silencieuse, mais avec le temps qui passe, elles se découragent à cause des difficultés et finissent par abandonner. Et en effet, Thérèse insiste beaucoup sur la détermination de ne pas revenir en arrière, de s'élancer sur la voie de la prière silencieuse avec cette détermination de ne pas revenir en arrière. Ça, je le mentionnerai aussi. Mais je voudrais montrer que la détermination thérésienne ne consiste pas seulement en une détermination par rapport au volume de l'oraison, au fait de faire oraison ou de ne pas faire oraison, mais aussi à la qualité de l'oraison. Une qualité qui requiert un élan, un mouvement, une certaine énergie. Ce n'est pas tant la détermination de rester fidèle coûte que coûte, ce qui est effectivement un thème thérésien qui est évident, mais aussi d'intensifier l'acte par lequel on pratique l'oraison. Détermination du regard, détermination de l'acte de foi, de l'intensité de la présence dans l'oraison. Et elle insiste là-dessus, même jusqu'au cinquième demeure, c'est-à-dire pour des gens pour lesquels, justement, l'oraison est devenue habituelle. Et précisément parce qu'elle est devenue habituelle, peut-être qu'il faut justement être vigilant à garder cet élan, cette intensité dans l'oraison. Par exemple, elle dit dans le livre des demeures, « Il s'agit de se montrer homme de cœur, dit-elle, sans être du nombre de ces soldats qui se couchaient à terre, à plat ventre, pour boire, alors qu'ils marchaient au combat. » Vous savez, c'est le soldat de Gédéon dans le livre des Juges. Autrement dit, pour dire les choses différemment, ce que je vais scruter ici, c'est par rapport à la formule « je veux voir Dieu », c'est le « je veux » de « je veux voir Dieu ». C'est-à-dire l'élan, ce qui nous revient à nous. Alors, pour cela, il y a un petit programme. Donc, il y a deux parties, vous voyez, détermination et progrès spirituel. Acte fort, engagement et sainteté. Ben oui, l'importance des actes forts dans la vie spirituelle. Alors, premier point, les combats et les armes de Thérèse. J'ai mis quelques petits dessins pour agrémenter mon propos. Le dessin ne représente pas exactement ce que je veux montrer, parce que je voudrais montrer qu'elle a combattu et qu'elle s'est rendue compte de la vérité de sa doctrine par sa propre expérience. C'est parce qu'elle s'est sentie faible, vous comprenez ? C'est parce qu'elle s'est sentie faible elle-même et que certainement, bien sûr, Dieu l'a soutenue de l'intérieur, qu'elle s'est rendue compte de la nécessité, de l'importance de cette détermination. Il ne s'agit donc pas d'une espèce de spéculation ou d'une théorie, mais d'une leçon d'expérience qui peut nous être très utile à nous aussi. Et donc, il y a un aspect pratique très évident. Par exemple, elle dit dans le livre de sa vie, au chapitre 4, « Le sentiment de l'amour divin n'était pas assez fort pour contrebalancer celui que je portais à mon père et à mes proches. » Elle parle de son entrée au couvent. « J'étais obligé de me faire une incroyable violence, et si Dieu n'était pas venu à mon aide, toutes mes considérations n'auraient pas été suffisantes pour me faire passer outre. » Et elle ajoute au chapitre 5, « Je n'avais pas encore cet amour de Dieu qui devint, semble-t-il, mon partage dès que je commençais à faire oraison. » Alors, évidemment, on sait que ça a été pour elle une première étape douloureuse et difficile. Et elle va ensuite devoir lutter, combattre pendant 18 ans, dit-elle, 18 ans de vie religieuse au cours desquels elle a combattu. Par exemple, elle dit au chapitre 7 du livre de sa vie, « Ce qui me faisait verser des larmes et m'en vouloir à moi-même, c'était de constater les sentiments que Dieu me donnait et en même temps de me voir toujours à la veille d'une rechute. » Elle se sent fragile et faible. Et pourtant, elle ne cesse d'insister sur cet élan, sur cette détermination, sur cette nécessité. Et vous savez qu'il y a une étape importante, que c'est celle où elle a eu cette grâce d'entendre le Seigneur lui dire « Je ne veux plus que tu converses avec les hommes, mais avec les anges ». Elle raconte ça dans le livre de sa vie, au chapitre 24. Et alors, cette parole en elle résonne si fort qu'elle se sent à ce moment-là le courage, dit-elle, de s'engager plus fermement. Et voilà ce qu'elle dit. « À partir de ce jour, je me sentis le courage de renoncer à tout pour l'amour de Dieu. » En un moment, semble-t-il, car je ne crois pas que cela ait duré davantage, il avait totalement transformé sa servante. On retrouve aussi quelque chose comme ça chez Thérèse de l'Enfant Jésus, en un instant. Et elle affirme aussi que Dieu, le Seigneur, favorise ceux qui se surmontent en vue de lui plaire. Alors, elle va connaître tout ce combat sur lequel je ne reviens pas par rapport à la fidélité à l'oraison, parce qu'elle se sent indigne. Et c'est, à mon avis, c'est de cette expérience, de ces tentations, de ces épreuves, de sa fragilité, que va naître cette conviction très ferme et très assurée que, il faut... combattre énergiquement. Alors, elle emploie parfois un vocabulaire qui nous paraît un peu militaire, mais il y a quelque chose comme ça. Par exemple, je cite encore au livre de sa vie, au chapitre 23, « J'étais fermement résolu à ne m'écarter en rien de ce qui me serait prescrit, et c'est ce que j'ai pratiqué jusqu'à ce jour. Béni soit Dieu qui m'a fait la grâce d'obéir, quoiqu'imparfaitement à mes confesseurs. » Alors maintenant, j'en arrive au cœur du sujet, détermination et oraison. Le texte que je vais commenter est cité dans le petit polycopier que j'ai fait passer. C'est un texte dans lequel, c'est dans le livre des demeures, dans le quatrième demeure, 4, chapitre 1er. Alinéa 7, elle donne des conseils pratiques et pour elle, l'amour, justement, consiste en une détermination. Elle associe pratiquement amour et détermination. L'amour ne serait pas vrai si la volonté n'est pas prise par l'amour. Voilà ce qu'elle dit. Je tiens seulement à bien vous avertir que pour faire de grands progrès dans ce chemin et monter à ces demeures qui sont l'objet de nos désirs, relevez bien le mot « désir », l'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Ainsi donc, attachez-vous de préférence à ce qui enflammera davantage votre amour. Et c'est là qu'elle donne la définition. Mais peut-être ne savez-vous pas bien ce que c'est qu'aimer, et je ne m'en étonnerai guère, eh bien, aimer, ce n'est pas avoir beaucoup de goût spirituel, c'est être fermement résolu de contenter Dieu en tout, c'est faire tous ses efforts pour ne pas l'offenser. Et vous voyez que si vous repérez c'est une déformation d'exégète, mais si on regarde le vocabulaire qu'elle utilise, on trouve le désir, aimer beaucoup, s'attacher, enflammer, fermement résolu, faire des efforts. Et on trouve une réelle insistance sur la détermination de la volonté. Comme un chemin de croissance, de perfection. Elle a consacré aussi un chapitre entier du chemin de la perfection au thème de la détermination dans la prière. Et elle a donné comme titre à ce chapitre, c'est le chapitre 23, « Combien il importe à celui qui est entré dans le chemin de l'oraison de ne pas retourner en arrière. » Point. Les titres sont très longs chez Thérèse. « On insiste sur le courage avec lequel il faut s'engager dans cette carrière. » Le courage, vous voyez. Et ne pas retourner en arrière. Et la détermination est bien sûr nécessaire pour les commençants, pour ceux qui commencent à s'engager sur ce chemin, mais elle est nécessaire tout le temps. C'est là un élément sur lequel je vais revenir. Ce qui est d'une importance majeure, d'une importance capitale, dit-elle, c'est d'avoir une résolution ferme, une détermination absolue, inébranlable, de ne pas s'arrêter avant d'avoir atteint la source. Quoi qu'il arrive ou puisse survenir, quoi qu'il en puisse coûter, quelque critique dont on soit l'objet, qu'on doive arriver au but ou mourir en chemin, accablé sous le poids des obstacles, quand le monde enfin devrait s'effondrer. C'est dans le chemin de la perfection, chapitre 21, c'est aussi dans les textes que je vous ai donnés. Alors, cette insistance montre bien qu'elle a une doctrine solide et cohérente, et elle veut véritablement démontrer quelque chose avec l'importance de ces résolutions, des résolutions pour quels que soient les faux pas d'ailleurs, quels que soient les, on peut trébucher sur cette voie, ça n'est pas ça qui importe, ce n'est pas le fait de tomber ou de trébucher ou le fait de faire des faux pas, c'est que cet amour soit soutenu par la volonté d'avancer. Alors, la valeur du premier pas. Évidemment, elle insiste très très lourdement sur le démarrage. C'est parce que c'est dans le premier pas sont contenus tous les pas. C'est l'initiation du mouvement qui donne sa valeur à tout le mouvement. On dit c'est le premier pas qui coûte aussi. C'est un peu cette idée qui est derrière. Par exemple, elle explique « Et quand on ne ferait qu'un pas, ce pas est d'une si haute valeur qu'il n'y a pas à craindre de l'avoir fait en vain. On en sera au contraire excellemment récompensé. » C'est dans le chemin au chapitre 20. Sa Majesté demande et aime des âmes courageuses, pourvu qu'elles soient humbles et se défient beaucoup d'elles-mêmes. Et oui, parce qu'il ne faudrait pas développer un aspect qui déséquilibrerait la grande cohérence interne qu'il y a dans sa doctrine. Et donc, à trop insister sur la volonté, la détermination, on pourrait occulter l'humilité. Et le sentiment que, évidemment, c'est Dieu qui donne la force et la fidélité. Ah, combien il importe dans la vie spirituelle de s'animer aux grandes choses. Et elle ajoute, j'en suis tout étonné moi-même. L'âme, sans doute, est faible encore, semblable au petit oiseau qui n'a pas entièrement dépouillé le duvet. Elle se fatigue et ne tarde pas à s'arrêter. Mais déjà, d'un coup d'aile, elle a franchi un immense espace. Vous voyez, le premier pas. Elle va peut-être s'arrêter, cette âme fragile et faible. Mais le fait qu'elle ait accompli un pas en avant compte énormément, a un poids considérable. Elle commente, par exemple, l'épisode de Pierre qui descend de la barque, vous savez, pour rejoindre le Seigneur. Et elle se dit, voilà un premier pas qui pourrait paraître inconséquent. Parce que Pierre n'a pas la force. Pierre coule du fait de la faiblesse de sa foi. Mais elle veut expliquer qu'il a bien fait quand même. Vous voyez, que ça n'est pas un acte inconséquent. Même si il aurait pu dire... c'est-à-dire que Pierre aurait pu dire, ben non, je ne descends pas de la barque parce que ma foi est trop fragile, mais quand même, il est descendu de la barque pour rejoindre le Seigneur et il s'est enfoncé dans l'eau. Et là, voilà, elle fait un très beau commentaire sur ce pas qui est une folie. Souvent, je me disais que Saint-Pierre n'avait rien perdu à se jeter dans la mer. Alors, la mer, c'est la mer de Galilée, hein, c'est le lac. Bien qu'ensuite, la frayeur l'eût saisi. Ses premières résolutions sont d'une haute utilité, voyez. Alors après, elle ajoute, bien sûr, il faut de la réserve, de la discrétion, et puis si on peut se faire accompagner par une direction spirituelle, c'est encore mieux. Et il faut bien sûr avoir toujours l'humilité avant de s'élancer. Mais elle admire cet acte fort de Pierre. Alors j'en arrive à mon deuxième point, justement sur les actes forts, engagement et sainteté. Oh, il n'y a pas d'image cette fois-ci. Cette résolution ferme, cette détermination absolue, inébranlable, voilà quelque chose que nous connaissons, qui ce mouvement pour cultiver les grands désirs compte de manière extrême dans sa doctrine. Elle utilise beaucoup d'images militaires, mais c'est sans doute... Vous savez qu'elle avait lu dans son enfance des romans de chevalerie. Peut-être qu'elle a gardé en mémoire quelques actions héroïques et elle transpose ces actions héroïques dans la vie spirituelle. Par exemple, elle explique dans le livre de sa vie, au chapitre 19, « L'âme se sent pleine de courage et si à cette heure on la mettait en pièces à cause de Dieu, elle en éprouverait une grande joie. » C'est ici que naissent les promesses et les résolutions héroïques, les brûlants désirs, l'horreur du monde, la vue claire de sa vanité. Vous voyez, c'est l'idée d'être résolu de mourir plutôt que de renoncer à atteindre le but. Chemin de la perfection, chapitre 20. Parce qu'on pourrait craindre de manquer d'eau, de mourir de soif. Et elle ne cache pas que les âmes qui s'engagent sur ce chemin vont peut-être avoir soif. Mais elle invite à ne pas avoir peur. Si vous avancez toujours résolu à mourir plutôt que de renoncer à atteindre le but, le Seigneur pourra bien vous laisser endurer quelque soif en cette vie. Mais dans la vie qui n'en finira pas, il vous abreuvera de cette eau avec pleine abondance et sans que vous ayez à craindre de la voir vous manquer. Elle reconnaît qu'il peut y avoir une soif, une nuit, une épreuve, une difficulté. Et puis alors, j'ai trouvé un autre texte, c'est dans la vie au chapitre 34. Quand elle parle de l'importance qu'il y a à fréquenter des âmes de désir, vous voyez, d'autres personnes qui sont animées par un désir fort, brûlant. Ils sont fermement résolus à exposer 1000 vies pour le service de Dieu. On dirait des soldats qui, pour s'emparer d'un butin et acquérir des richesses, appellent la guerre de tous leurs vœux comme le seul moyen d'y arriver. Oui, bon, c'est un peu guerrier. Mais enfin, on voit ce qu'elle veut dire. Alors, j'en arrive à un point qui me paraît intéressant, c'est la sécheresse comme miséricorde de Dieu. La sécheresse, cette expérience de l'oraison n'est pas, en fait... j'ai trouvé une réflexion, par exemple, du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dans « Je veux voir Dieu ». Il explique, lui, que la sécheresse dans l'oraison relève parfois d'un dessein providentiel, je cite, « qui régit et utilise avec sagesse toutes les activités même libre et ennemi, pour la sanctification des élus. Il peut y avoir dans la nuit que l'on traverse, dans la sécheresse, dans l'oraison, quelques desseins providentiels qui poussent au progrès spirituel, à cause de la fidélité de l'âme qui traverse ces épreuves et cette sécheresse. J'ai trouvé cette pensée chez Thérèse d'Avila dans le livre de sa vie au chapitre 11. Voilà ce qu'elle dit. « C'est pour notre bien, sans aucun doute, que Sa Majesté veut nous conduire par cette voie, la voie de l'oraison sèche. Il faut en effet que nous comprenions bien le peu que nous sommes. Les grâces qui nous seront accordées plus tard sont d'un ordre si élevé qu'il veut d'abord nous faire connaître, par expérience, l'abîme de notre misère, afin de nous préserver d'une chute semblable à celle de Lucifer. » Toujours l'humilité. Comprendre le peu que nous sommes. Mais on voit bien, enfin, c'est un thème classique dans les saints du Carmel, que le chemin de la montée du Carmel passe par la nuit. C'est un chemin qui s'accomplit de nuit, dans l'obscurité. Et l'important, justement, c'est cette détermination à avancer et à poser un pas devant l'autre et surtout à poser le premier pas. C'est précisément l'absence de consolation qui conduit à une foi épurée, pure, cet amour détaché de tout ce qui n'est pas gratuit. Donc, c'est la nuit qui rend possible la gratuité du don, finalement. S'il n'y avait que des consolations dans la vie spirituelle, on ne pourrait jamais manifester vraiment notre amour pour Dieu. Parce qu'il y aurait un mélange de consolation, d'amour pour Dieu, mais mêlé à une recherche de consolation. Et donc la nuit est l'occasion, le moment favorable pour justement prouver notre amour pour Dieu, pour rester fidèle, comme le dit aussi la petite Thérèse dans le manuscrit B. L'oiseau qui reste fixé, le soleil divin qui se dérobe. Et elle conclut en disant « Notre Seigneur sait que nos âmes ont un désir constant de penser à lui et de l'aimer. C'est cette ferme résolution qu'il demande. » Vous voyez, dans la nuit, ce que demande le Seigneur, c'est toujours la même chose, c'est la ferme résolution, le désir constant de penser à lui et de l'aimer. Ben, effectivement, l'amour semble paraître du coup extrêmement exigeant, une exigence infinie qui va jusqu'au pardon, ce pardon qui dépasse... J'ai trouvé un texte sur le pardon qui est magnifique. « Votre âme, dit-elle, est entièrement décidée à pardonner si, quand l'occasion s'en présente, elle pardonne effectivement quelque injure que ce puisse être, si grave soit-elle. » Et effectivement, il faut savoir qu'elle a eu aussi dans sa vie beaucoup de déconvenues, de misères, d'obstacles, de trahisons. Et donc, ce ne sont pas des paroles, ce sont des paroles d'expérience. Parce qu'il peut être parfois difficile, héroïque, de s'avancer sur ce chemin et aussi de rester fidèle malgré les tentations. J'ai trouvé, par exemple, la manière dont elle parle des ruses du démon et de l'énergie avec lesquelles il faut les repousser, parce que le démon utilise toutes sortes de ruses pour appuyer sur les points faibles. Mais la pire des tentations, c'est l'orgueil spirituel, évidemment. Comme elle le dit dans Le chemin de la perfection au chapitre 38, le démon nous persuade que nous avons une vertu, la patience par exemple, parce que nous prenons la résolution de beaucoup souffrir pour Dieu et nous en faisons des actes fréquents et nous semble vraiment être prêtes à tout endurer. Nous voilà très satisfaites et le démon nous confirme dans ce sentiment. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, à la première occasion, votre patience va s'effondrer. Si vous n'y prenez pas garde, votre patience va s'effondrer. On a l'impression que déjà Thérèse d'Avila ouvre la voie de la confiance et de l'abandon, des mains vides, de celle de la petite Thérèse, si on doit renoncer même à ses vertus, c'est-à-dire si plutôt on doit lutter contre cette tentation du démon qui veut nous persuader que nous avons des vertus. Oui. Donc ça veut dire, à l'inverse, donc, qu'il faut se persuader du contraire, qu'on n'a pas de vertus. C'est les mains vides de la petite Thérèse. On retrouve une certaine cohérence là. Et dans le manuscrit de l'Escurial, le thème est plus développé sur les tentations et sur le démon. Et dans l'édition du Cerf, il y a une note pour ajouter le paragraphe qui figure dans le manuscrit de l'Escurial, où elle compare ces tentations du démon qui veut nous persuader que nous avons des vertus à une fondrière dans laquelle on s'embourbe dans sa propre vertu. Et elle termine en disant « J'en sais long sur ce point et c'est ce qui me permet d'en parler. » Vous voyez, elle n'en parlerait pas si elle n'en avait pas fait l'expérience. J'en arrive au point 4, don de soi et détermination. Thérèse est persuadée de la force immense de ce don de soi, à condition qu'il soit accompli avec générosité. Et le don de soi, effectivement, il est ouvert à toutes les possibilités, à toutes les activités, comme on le voit là quand elle bâtit un couvent, je suppose. « Oh, mes sœurs, quelle puissance dans ce don, s'il est accompli généreusement, comme il doit l'être. Il amène le Tout-Puissant à ne faire qu'un avec notre bassesse et à nous transformer en lui. » Mais dans le château intérieur, au chapitre 3, dans les troisièmes demeures, chapitre 1, pardon, elle revient sur la détermination de ce don. Le don de soi peut toujours être repris. Le don de soi est fragile. Il peut être sincère dans un premier mouvement, mais ensuite le don de soi peut être repris, peut être grignoté, peut s'effondrer au fur et à mesure de l'usure de nos dispositions, de notre volonté. « Ne vous figurez pas, dit-elle, que Dieu ait besoin de nos œuvres. Ce qu'il lui faut, c'est la détermination de notre volonté. » Une volonté bien déterminée. La détermination de la volonté. Voilà quelque chose d'essentiel, de crucial. Et même, donc, je dirais, dans le château intérieur, dans les cinquièmes demeures, elle revient constamment sur cet aspect parce qu'elle a elle s'aperçoit bien de l'usure du temps. Il y a une usure, spécialement lorsque dans la vie spirituelle, l'oraison est devenue habituelle. Précisément, le fait que l'oraison devienne habituelle peut provoquer une passivité, une usure, c'est-à-dire que les dispositions initiales finissent par se ramollir et s'affadir. Alors, elle insiste énormément, justement, dans le chapitre 4 des cinquièmes demeures, en disant, je cite, « L'union ne sera accessible et possible que si l'âme est résolue de faire en tout la volonté de son époux, de se prêter à tout ce qu'elle saura lui être agréable. De son côté, notre Seigneur connaît la sincérité de ses dispositions, est content d'elle et lui fait cette grâce de vouloir bien se découvrir davantage. » Il est clair que, justement, dans les cinquièmes demeures, elle insiste beaucoup sur les tentations, notamment les tentations du démon qui essaye de faire retourner l'âme en arrière parce qu'il a Il se rend compte que l'âme va lui échapper en parvenant, en s'approchant de la sainteté. L'âme devient finalement invincible en quelque sorte quand elle parvient au sommet de la sainteté. Et donc le démon déploie tout son stratagème pour affadir, pour ramollir, pour déconstruire cette volonté, les bonnes résolutions et les dispositions qui avaient été cultivées au départ. J'en arrive à la conclusion. Ma conclusion, je l'ai intitulée « Toujours avancer ». Finalement, cet élan est un mouvement permanent pour avancer. Et Thérèse perçoit bien le danger de l'arrêt, de s'arrêter. C'est ainsi, du reste, qu'elle clôture le chapitre du château sur les cinquièmes demeures. Je cite « Enfin, disons pour terminer qu'il faut faire en sorte d'avancer toujours ». S'il n'y a pas de progrès, craignons beaucoup, car très certainement le démon s'apprête à nous assaillir. Il n'est pas possible, en effet, qu'une fois monté si haut, on cesse d'avancer. Car jamais l'amour ne demeure inactif. Cet arrêt serait un fort mauvais signe. Évidemment, une âme qui aspire à devenir l'épouse de Dieu même, dont l'accord avec sa majesté est déjà si avancé, ne peut s'abandonner lâchement au sommeil. Alors, on pourrait... Donc, cette doctrine de Thérèse est très, très en accord avec l'Évangile. L'Évangile qui insiste sur j'aurais pu commencer par là, mais vous savez que le royaume des cieux souffre violence et que les violences en emparent. Il y a quelque chose de cette énergie, cette détermination déterminée de Thérèse. Elle est malheureusement, elle ne cite pas Matthieu 11, 12, mais elle cite d'autres textes bibliques. Je crois que c'est extrêmement fondé, très pertinent, très cohérent dans sa doctrine. Et c'est cohérent avec l'ensemble de l'enseignement du Carmel sur la vie spirituelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.